Bonjour à tous. J'espère que je vais mettre dans ce sens-là, ça devrait aller. J'essaie de m'organiser avec ma Bible. Je vais mettre un peu de côté. Je vais commencer par la prière. Merci Seigneur, parce que tu es notre Dieu, notre Père. Et je voulais te prier déjà pour te remercier de la joie que tu mets dans mon cœur. Une joie réelle de savoir que tu es mon Dieu, de savoir que tu prends soin de moi toute la semaine, que tu as pu prendre soin de moi encore toute cette semaine et que je l'ai ressenti, pour la manière dont tu prends soin de chacun d'entre nous ici dans cette salle. Je voudrais te remettre aussi ce message que tu as nous apporté ce matin, ce message qui n'est pas le mien mais le tien, que tu puisses m'utiliser comme ton serviteur, que tu puisses m'utiliser simplement comme un instrument pour le transmettre à chacune des personnes ici dans la salle. Et je voulais te demander aussi quelque chose en particulier. C'est vrai, je fais référence à cette parole de mon frère au début du culte qui a évoqué les personnes plus âgées dans cette salle et qui a plutôt choisi d'utiliser le terme « moins jeune ». Mais Seigneur, que tu puisses nous donner de réaliser finalement quelle est l'importance que tu accordes à cet âge, que nous ayons tous au travers de ce que tu nous enseignes, de ce que tu vas nous enseigner, plutôt envie de nous qualifier comme plus âgés, voire même comme vieillards, sans aucune honte, mais plutôt avec fierté, parce que nous réalisons toute la richesse que cela nous apporte. Et que voilà, que tu puisses aussi transformer nos cœurs dans ce sens-là, dans la manière dont nous voyons les personnes qui sont plus âgées que nous, et que nous puissions réaliser tous ensemble toute la bénédiction que nous avons de les avoir avec nous. Dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc, vous l'aurez compris, annoncé déjà par Georges et aussi dans ma prière, quel va être le thème principal du message ce matin. Donc, c'est un message qui en fait, se retrouve dans la poursuite de l'étude du livre de Tite que nous avons commencé en début d'année. Et que nous étudions depuis septembre. Donc là, c'est un peu particulier parce que nous avons fait une pause d'un mois depuis le début du mois de décembre et que nous allons reprendre le cours de cette étude. Donc je vais faire un petit rappel simplement pour nous remettre dans le contexte. Donc la lettre de Tite, c'est une lettre qui est de l'apôtre Paul à l'un de ses fils spirituels, Tite, qui était chargé d'apporter la parole et d'évangéliser sur l'île de Crète. Donc c'était une mission assez difficile et délicate, parce qu'il s'agissait entre autres de remettre de l'ordre dans les églises de Crète, et aussi au travers de ça, dans la vie personnelle de tous les chrétiens qui se trouvaient là-bas. C'est une mission difficile parce que ces églises se trouvent dans un contexte qui est assez particulier, qui est assez difficile, parce que justement, la mentalité des personnes sur cette île font qu'ils sont particulièrement réfractaires à la parole de Dieu, et en tout cas à l'esprit de la parole de Dieu. Ce que nous avons constaté aussi, c'est que les instructions de Paul pour Tite, finalement, dans le cadre de ce message, de cette évangélisation, de cette mission qu'il a en Crète, ont aussi un caractère très, très contemporain. C'est-à-dire que finalement, la situation qui se trouve dans l'île de Crète ressemble beaucoup à la situation que nous vivons aujourd'hui en France, par exemple. Et que finalement, tous ces enseignements que nous tirons de la lettre de Paul à Tite sont utiles, de façon concrète aussi, pour notre église locale ici à Brunois, pour réfléchir à la manière dont nous devrions avoir la meilleure organisation, aussi la manière dont nous devrions nous édifier les uns les autres et aussi au travers de nos messages, de nos échanges, en nous appuyant sur ce que la parole de Dieu nous dit dans ce livre de Tite. Et pour cela, je vous invite à prendre vos Bibles. Donc, dans le livre de Tite, au chapitre 2, nous allons ce matin étudier les 5 premiers versets. Je lis au nom du Seigneur. Toi, au contraire, parle selon ce qui est conforme à l'enseignement authentique. Dis aux hommes âgés d'être maîtres d'eux-mêmes, respectables, réfléchis, pleins de force dans la foi, l'amour et la persévérance. Qu'il en soit de même des femmes âgées, qu'elles aient un comportement digne de Dieu, qu'elles ne soient pas médisantes, ni adonnées à la boisson, qu'elles s'attachent plutôt à enseigner le bien, qu'elles conduisent aussi les jeunes femmes à la sagesse, en leur apprenant à aimer leur mari et leurs enfants, à mener une vie équilibrée et pure, à être des maîtresses de maison bonnes et actives, à être soumises à leur mari. Ainsi, la parole de Dieu ne sera pas discréditée. J'ai un souci de place, je vais mettre ma Bible juste à côté. Comme vous l'avez vu, le passage que nous avons étudié ce matin commence par la phrase suivante. « Toi, au contraire, parle selon ce qui est conforme à l'enseignement authentique. » C'est une instruction qui s'adresse directement à Tite dans son rôle de pasteur, dans son rôle de missionnaire pour les églises de Tite. L'apôtre Paul veut lui rappeler en premier que son enseignement doit être authentique, c'est-à-dire s'appuyer sur la parole de Dieu, être fidèle en tout point au message de l'Évangile, parce que c'est ce message-là qui sanctifie, c'est ce message-là qui sauve par l'acceptation de Jésus-Christ. Et si l'apôtre Paul prend la peine de le préciser, c'est parce que selon les informations dont il dispose, il sait très bien que les Crétois n'ont pas la réputation d'être des chrétiens très affermis. Ils n'ont pas la réputation d'être des chrétiens qui s'appuient totalement sur la parole de Dieu dans leur vie quotidienne. Et bien au contraire, ce sont le plus souvent des esprits rebelles qui n'ont de cesse de détourner le sens des Écritures pour proclamer de fausses vérités, des vérités qui les arrangent personnellement. Ils font des discours très savants qui souvent déforment les enseignements de la Bible et ça leur permet de justifier toutes sortes de déviances dans leur comportement tous les jours. Et c'est vraiment avec cet éclairage-là, de ce contexte des chrétiens de Crète, avec la connaissance de ce contexte négatif, que Paul donne cette instruction à Tite. Et l'un des principaux objectifs que Paul vise en disant cela, il se trouve mentionné à la fin de notre passage de ce matin, au verset 5, « Ainsi, la parole de Dieu ne sera pas discréditée. » Et ce que je voulais vous faire remarquer, c'est que finalement, le passage que nous étudions ce matin, cette méditation, elle commence et elle se termine en faisant référence à la parole de Dieu. Toi, au contraire, parle selon ce qui est conforme à l'enseignement authentique. Donc ça, c'est pour le début. Et à la fin, ainsi, la parole de Dieu ne sera pas discréditée. La parole de Dieu est à l'origine de toutes choses qui sont parfaites. Et en particulier, c'est la référence parfaite pour nos paroles et pour nos actes, pour toutes nos paroles qui édifient et qui sanctifient. La parole de Dieu est aussi le mode d'emploi parfait pour nos actes, parce qu'elle est le meilleur moyen de nous conformer à la volonté de Dieu. Et cette volonté est parfaite pour nous. Et si je devais faire une synthèse, la parole de Dieu est la colonne vertébrale de la vie du croyant. Si nous parlons et si nous agissons en conformité avec la parole de Dieu, ainsi, la parole de Dieu ne sera pas discréditée. Alors, bien sûr, la première étape, c'est de connaître la parole de Dieu. C'est une incitation forte à lire la parole de Dieu le plus souvent possible et à tirer des enseignements utiles pour notre vie quotidienne. Pas seulement pour connaître la Bible d'un point de vue purement théorique. Comme on l'a vu, et comme je l'ai rappelé, Tite se trouve dans un contexte relativement difficile en Crète. Un contexte qui ressemble beaucoup à la société française d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que le message que Paul veut faire passer aux chrétiens de Crète est très actuel pour nous aussi. Se conformer à un enseignement authentique, à la parole de Dieu, sans aucune déformation. Nous devons avoir conscience du fait que nous ne devons pas prendre de liberté incontrôlée dans l'interprétation de la parole de Dieu. Simplement pour nous conformer à la pensée du monde dit moderne, pour suivre les habitudes ou la mode du moment, ou encore pire, pour servir la convoitise de personnes qui sont mal intentionnées. Et je vais faire une aparté aussi qui nous concerne directement. C'est aussi dans ce sens-là que notre sœur Noémie Piaget va prendre la parole publiquement aujourd'hui, cet après-midi, à la veille de l'examen d'un, vous savez, du projet de loi bioéthique au Sénat. Elle va le faire pour alerter, pour sensibiliser le plus grand nombre sur le danger, sur les dérives que cette loi peut produire pour notre société. Et ce qu'elle va faire, finalement, à mon sens, c'est de rappeler simplement des vérités fondamentales et saines qui demeurent la meilleure chose pour notre vie et pour celle de nos enfants. Parce que c'est la volonté du Dieu vivant, celui qui a créé le ciel et la terre. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle n'est pas là présente dans cette salle, parce qu'elle a déjà dû y aller, mais j'ai quand même eu l'occasion de lui dire que j'allais mentionner ce ministère qu'elle a en charge aujourd'hui, et que nous allons l'apporter dans nos prières et que nous aurons une pensée pour elle. Et j'en profite aussi pour, d'une manière générale, l'encourager, comme je le disais dans nos prières, et d'une manière générale dans sa vie quotidienne et dans tous les ministères qu'elle a reçus de notre Seigneur et qu'elle accomplit avec beaucoup d'engagement. Tite, lui aussi, il est encouragé par l'apôtre Paul à proclamer un évangile authentique et à veiller sur la préservation de la vérité, conforme en tout point à la parole qui sanctifie. Et je pense que c'est vraiment dans ce cadre-là qu'il faut comprendre les différentes instructions que nous allons parcourir dans le message de ce matin, avec cet encadrement-là, avec cet éclairage-là. Les instructions de Paul sont destinées à changer la vie des chrétiens de Crète. Elles sont destinées à ce que, dans leur vie quotidienne, ils puissent briller, que leur vie brille dans les ténèbres du monde qui les entoure. Et c'est pour ça que ces instructions s'appliquent vraiment à chaque moment, à chaque partie de leur vie quotidienne. L'idée préméditée vraiment de Paul dans le cadre de ce passage-là, c'est que l'enseignement qui est conforme à la parole de Dieu et qui est reçu à l'Église, il se doit d'avoir un impact tangible dans nos vies. Il se doit d'avoir une implication réelle et visible dans tous les moments de la vie d'un croyant. Paul, finalement, donne pour mission à Tite que l'évangile qui soit proclamé dans les églises de Crète puisse avoir pour but assumé, pour but prémédité, que l'on puisse observer de l'extérieur toute la transformation que la parole de Dieu fait à l'intérieur de nous. Et cela s'applique aussi à nous tous ici, ce matin à Brunois. Écouter et apprendre, c'est l'essentiel, c'est essentiel. Mais pour être utile, cet essentiel a besoin d'avoir un impact sur notre vie quotidienne, notamment dans nos paroles et dans nos actes. Écouter attentivement, apprendre et agir en conformité avec la parole, c'est ça qui est vraiment notre objectif. Alors, dans ce cas-là, notre vie sera un témoignage vivant qui marque les esprits de ceux qui sont proches de nous. Non pas pour nous glorifier nous-mêmes, mais dans le but que ce témoignage encourage tous ceux qui nous observent, pour donner à eux aussi l'envie de donner leur vie à Jésus-Christ, sans aucune crainte, mais avec confiance et espérance. Notre but, c'est vraiment que le témoignage de notre vie puisse donner aux autres la soif d'avoir accès à cette merveilleuse espérance qui illumine notre vie. Et une fois qu'on s'est dit ça, ben la question qui vient juste après, c'est la question du mode d'emploi. Comment faire? Comment agir pour arriver à ce résultat? Et nous avons un certain nombre de réponses qui sont tirées du passage que nous venons de lire. Et ce qu'il y a d'intéressant dans ce passage, dans la façon dont l'apôtre Paul donne des instructions à Tite, c'est qu'on voit que toutes les instructions qu'il donne ne sont pas forcément exactement les mêmes pour tout le monde. Pourtant, la parole de Dieu et la volonté de Dieu, elle est unique. Mais quand vous l'interprétez pour donner des instructions de vie pratique à chacun, finalement, vous tenez compte de la vie pratique, la vie réelle que chacun vit. Et il va y avoir des implications qui peuvent avoir des nuances légèrement différentes selon les personnes auxquelles vous vous adressez. Et finalement, ça permet d'avoir une implication beaucoup plus directe et beaucoup plus immédiate de la parole de Dieu dans notre vie. Et on se rend compte dans le livre de Tite au chapitre 2, et ça peut être une surprise peut-être pour certains d'entre vous, que la première catégorie de personnes à laquelle l'apôtre Paul choisit de s'adresser, ce sont les personnes âgées dans l'Église. Et j'irai même plus loin, certaines traductions de la Bible prennent plutôt en compte le nom de vieillard. Si je me réfère au contexte de la société actuelle, des personnes qu'on traite de vieillards, c'est rarement dans un sens positif. C'est rarement des personnes qu'on va, dans notre esprit et même parfois même en acte, traiter avec un énorme respect. Souvent même, ça peut aller jusqu'au mépris. Je prends l'exemple de l'entreprise où je travaille. C'est un exemple concret, je pense. Dans l'entreprise où je travaille, il y a plusieurs personnes qui sont relativement âgées. Ce sont en général des personnes qui travaillent là depuis plusieurs dizaines d'années. Et quand je fais le bilan des conversations que toutes les personnes autour de moi ont souvent avec elles, je me rends compte que souvent ces conversations, ça tourne autour de combien de temps il vous reste pour prendre la retraite, pour prendre votre retraite? Combien est-ce que vous avez de petits-enfants? Qu'est-ce que vous avez prévu pour aménager votre temps de travail pour répondre à cette pénibilité plus importante du fait de l'âge? Toutes sortes de sujets, même souvent il est question de pratique du tricot à la maison, toutes sortes de choses qui finalement n'ont pas beaucoup de rapport avec les objectifs de l'entreprise pour laquelle nous travaillons. Et tout le monde sait que finalement, le but d'une entreprise, et de celle dans laquelle je travaille aussi, c'est en premier lieu de se développer et d'accroître ses bénéfices. C'est quand même le but principal de ceux qui possèdent l'entreprise. Et on voit tout de suite le décalage qu'il y a entre ce qui est supposé être le centre d'intérêt des personnes plus âgées et les centres d'intérêt de l'entreprise. Quelle est la conséquence de ça? Ça veut dire que la conséquence immédiate, ça veut dire que finalement, l'entreprise va considérer ces personnes comme, entre guillemets, des fardeaux, comme des fardeaux qui traînent, dont on ne sait pas trop comment se débarrasser, comme des personnes peu efficaces ou peu efficientes. Et la conséquence de ça, ça peut souvent aller même jusqu'au harcèlement moral. Moi, j'ai remarqué que la plupart des personnes âgées qui sont dans mon entreprise, en fait, la première chose qu'elles ont fait, c'est de s'allier à un syndicat pour protéger leur emploi, tout simplement, pour ne pas risquer un licenciement abusif ou un harcèlement moral au travail. Et à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Elles vont se voir confier des tâches de préférence relativement faciles, à très faible valeur ajoutée. Et la plupart du temps, elles attendent que le temps passe, lentement et de manière assez déprimante. Et quand on voit ce tableau-là, franchement, ça ne donne pas très envie de vieillir. Ça ne donne pas envie de vieillir dans l'esprit de notre société dite moderne. Et on a vite fait de faire l'amalgame entre une personne âgée et une personne fatiguée, peu productive, presque encombrante, voire facultative pour contribuer au bon développement de la société. Par contre, un sujet d'actualité, on sait aussi que le paiement de retraite, c'est une source de conflit, et je pense que tout le monde s'en rend compte en ce moment. Entre les plus vieux qui considèrent qu'ils ne reçoivent pas assez pour leur retraite, ou alors beaucoup trop tard, et l'État qui va considérer que ces personnes coûtent beaucoup trop cher et voudraient partir beaucoup trop tôt à la retraite. Bref, c'est un vrai sujet d'actualité. Je reviens à un autre texte. Et c'est ce qui me marque vraiment dans l'approche de l'apôtre Paul, en complète opposition avec la vision de notre monde. La cible numéro un, la cible prioritaire de l'apôtre Paul dans l'énonciation des devoirs des personnes qui sont dans l'Église, ce qu'il pense, les personnes qui pensent les plus importantes de toucher en premier, eh bien, c'est les personnes les plus âgées. Et on va essayer de comprendre pourquoi. Mais d'une manière générale, si on se réfère à la Bible, ça n'est pas vraiment une surprise. Il y a beaucoup de passages dans la Bible qui militent en faveur d'un grand respect et d'une grande considération qui doit être accordée aux personnes âgées. Je prends deux exemples. Ce n'est pas la peine de l'ouvrir, juste je vous donne des références. Pour ceux qui voudront les lire par la suite, dans Exode 20, au verset 12, il est écrit « Honore ton père et ta mère, afin de jouir d'une longue vie dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Honorer des personnes plus âgées dans l'optique de devenir une personne plus âgée. Dans Lévitique, au chapitre 19, verset 32, il est écrit « Tu te lèveras devant ceux qui ont des cheveux blancs, tu honoreras la personne du vieillard, et c'est ainsi que tu reverras ton Dieu. Je suis l'Éternel. » Là, on se situe vraiment au cœur de ce qui fait l'identité du chrétien. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est un disciple de Christ, c'est quelqu'un qui a à cœur de révérer son Dieu. Et là, il est écrit que pour révérer son Dieu, tu te lèveras devant ceux qui ont des cheveux blancs, et tu honoreras la personne du vieillard. Je pense qu'on ne peut pas être plus clair sur l'importance qu'une personne âgée peut avoir pour un chrétien. Et de même, dans le passage de Tite au chapitre 2, nous avons des instructions précises qui sont données à l'attention des hommes âgés. Et en fait, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'elles se divisent en deux groupes qui comprennent trois instructions principales. En fait, l'apôtre Paul a choisi, comme je l'ai dit, d'abord de s'adresser aux personnes âgées. Donc, il a commencé dans les personnes âgées par avoir des instructions pour les hommes âgés et ensuite pour les femmes âgées. Donc, on va commencer par la partie qui concerne les hommes. Donc, on voit qu'il y a deux rangées d'instructions. Une première rangée qui concerne plutôt des instructions morales qui s'appliquent dans la vie quotidienne en famille ou en société. Donc là, le but recherché, c'est d'avoir un comportement exemplaire qui a valeur d'exemple pour toutes les personnes qui regardent, qui vous observent. Et la deuxième partie des instructions pour les hommes, c'est des instructions que je vais qualifier de plus spirituelles, qui auront plus d'impact au sein de l'Église, notamment pour édifier les autres membres de l'Église sur la manière de s'attacher à Dieu. Et donc, cette première partie des instructions qui sont données aux hommes âgés sont énoncées de la manière suivante, au verset 2. « Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés. » Les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés. La sobriété, en premier lieu, c'est quelque chose qui suppose de se comporter avec mesure, avec sagesse. Par exemple, éviter des plaisanteries douteuses, toutes les choses qui sont contraires à la bienséance. Il est aussi question de boire et manger avec modération. La sobriété aussi, ça peut se manifester en évitant d'être imbu de sa personne, mais plutôt privilégier la simplicité, l'humilité, rechercher la discrétion pour soi-même et chercher plutôt à élever et à glorifier notre Seigneur. Et cette sobriété se complète aussi de deux autres exigences de bon comportement pour les hommes âgés. Ils se doivent d'être honnêtes et modérés. Si je me réfère à la version de la Bible du Sommeur, les termes qui ont été choisis sont « respectables » et « réfléchis ». Ce qui nous oriente vers l'idée de l'exemplarité du comportement en public et aussi la maîtrise de soi en toutes circonstances. Alors, être sobre, respectable, réfléchi. Est-ce que vous pensez que c'est des qualités que vous rencontrez de façon universelle chez tout le monde, relativement facilement? Les personnes que vous croisez sont systématiquement très humbles, posées, respectables, ne font jamais d'écart de langage, sont toujours empreintes d'une grande sagesse. Je vais prendre juste un petit exemple. Quand vous prenez votre voiture le matin pour aller au travail, qu'est-ce qui se passe à côté de vous? Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Il y a une sorte de, entre guillemets, de diable qui rentre en nous dès qu'on se met au volant de notre voiture et on perd toute responsabilité, respectabilité, toute mesure. C'est des coups de klaxon, des insultes. Et en fait, moi, j'ai pris le... Souvent, je me dis, j'essaie de prendre du recul par rapport à ma propre vie. Je me dis, tiens, je me mets comme un spectateur et je regarde ce qui se passe. Et j'essaie d'évaluer la raison pour laquelle la personne à côté de moi s'est énervée. Et je réalise que c'est parce qu'elle a perdu 2 secondes. 2 secondes. Et pour 2 secondes, vous avez des insultes et même parfois, ça finit en bagarre. Voilà le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. C'est une façon de dire aussi que finalement, ce ne sont pas des qualités qui sont si faciles, si innées que ça à avoir. Ça ne coule pas forcément de source. Et en parlant, puisqu'ici on s'adresse en particulier aux personnes âgées et aux hommes âgés, je pense que souvent, si Paul choisit de se référer à ce type de qualité pour les personnes âgées, c'est parce qu'il a conscience que c'est souvent le résultat d'un long apprentissage sur soi-même, le résultat d'une longue expérience de vie chrétienne, une expérience qui nous amène à polir, à améliorer notre caractère de jour en jour, petit à petit. Et le résultat de ça, ça peut être de se comporter avec moins d'impulsivité, qui est incontrôlée, plus de réflexion, moins de dérapage, plus de sagesse et au final, une meilleure maîtrise de soi qui s'affermit année après année. Alors attention de ne pas mal interpréter mes paroles. Il ne s'agit pas de susciter des surhommes qui ont toutes les qualités et aucun défaut. Je pense que les hommes plus âgés sont des hommes normaux comme les autres. Ils ont des qualités et des défauts. En revanche, cette expérience, cette vie qu'ils ont expérimentée avec le Saint-Esprit au cours des années, c'est quelque chose qui les amène à être de plus en plus dépendants de la volonté du Saint-Esprit. Et je pense que c'est vraiment vers ça que nous essayons de tendre. Non pas de devenir des surhommes, mais de devenir des personnes qui, de plus en plus, lâchent prise pour que ce soit le Saint-Esprit qui occupe toute la place et que ce soit lui qui s'exprime dans nos actions. Mais c'est vrai que quand je parle de dépendance du Saint-Esprit, le terme dépendance, lui aussi, comme le terme vieillard, a souvent une connotation très négative, notamment pour les personnes âgées. Quand on parle de personnes âgées, on a vite fait de parler de personnes dépendantes. Mais dans le contexte de la dépendance vis-à-vis du Saint-Esprit, Eh bien, c'est une immense qualité. C'est une qualité qui n'a pas de prix. C'est une qualité qu'il faut absolument faire fructifier tout au long de sa vie. Et l'apôtre Paul exhorte vraiment les hommes âgés à user de leur expérience dans ce domaine pour manifester un comportement exemplaire, un comportement qui servira d'exemple et de référence pour le reste de la communauté. Donc là, on a parlé de la partie qui est vraiment de l'ordre des instructions morales. Et comme je l'ai mentionné aussi, il y avait des instructions qui étaient plus de l'ordre du spirituel. Au-delà d'un comportement qui serait sans reproche et qui a valeur d'exemple pour les plus jeunes, les hommes âgés sont aussi appelés à être des référents sur le plan spirituel, notamment dans l'Église. Et la manière dont c'est écrit dans le chapitre 2 de Tite, c'est qu'il nous est dit, ils sont notamment appelés à être saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. Saints dans la foi, c'est-à-dire qu'avoir une foi qui est en bonne santé, une foi qui fait plaisir à notre Seigneur. Alors le mot foi, il peut avoir plusieurs connotations. Je vais en citer quelques-unes, pas forcément tout ce à quoi on peut le lier. Ça peut être une conviction ferme dans la vérité de la parole de Dieu. Ça peut être aussi la foi, l'expression d'une confiance totale dans les plans de Dieu pour notre vie. On peut aussi voir la foi comme un synonyme de fidélité et d'attachement à Dieu. Il peut y exister beaucoup d'autres exemples, mais c'est simplement pour donner un contexte plus pratique à ce que l'apôtre Paul voudrait nous apporter sur ce texte. En deuxième lieu aussi, sur le plan spirituel, les personnes âgées sont exhortées à être saints dans la charité. Et la charité, ça peut aussi se traduire par l'amour, l'affection, la bonne volonté, la bienveillance. Ce sont de grandes qualités, vous serez d'accord avec moi, qui ont besoin d'être développées chez tous les chrétiens. Et enfin, l'apôtre Paul souhaite que les hommes âgés soient encouragés à être aussi saints dans la patience. La patience, c'est quelque chose qui évoque dans notre esprit un effort prolongé, une résilience, une endurance, une constance, de la persévérance, de la tempérance aussi. Là encore, on voit bien que c'est des types de qualités qui s'acquièrent vraiment avec le nombre d'années, avec l'expérience, avec des combats qui sont menés contre notre propre caractère, avec l'aide du Saint-Esprit qui nous modèle. Laissez l'Esprit Saint forger notre caractère pour le rendre plus proche et plus conforme à celui de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est le modèle parfait pour la vie du chrétien. Et vous voyez bien que le sens général de ces exhortations est aussi que les églises peuvent tirer un grand bénéfice de l'exemple qui est donné par les plus âgés, par ceux qui, depuis longtemps, avec persévérance, traitent durement leur corps et leur esprit pour s'améliorer dans tous les domaines que nous venons de citer. Alors, qu'en est-il des femmes âgées? Alors, ce que je voudrais dire, c'est que je ne vais pas forcément faire une séparation totale entre ce qui est prescrit pour les hommes et ce qui est prescrit pour les femmes, au contraire. Parce qu'en fait, si je m'en tiens au terme qui est utilisé, notamment dans la version du Sommeur, pour faire la liaison entre les instructions qui sont données pour les hommes et pour les femmes, ça commence par « qu'il en soit de même ». Ou dans la version Louis II, c'est « de même ». Ceci nous fait comprendre que finalement, toutes ces qualités que Paul exhorte les hommes âgés à avoir, nous avons, d'une certaine façon, une parfaite similitude pour les femmes âgées. En fait, de toutes les façons, c'est des qualités, comme on l'a vu, qui, dans la plupart du temps, s'acquièrent vraiment avec une expérience avec le Seigneur, et cette expérience ne dépend pas vraiment du fait qu'on soit un homme ou une femme. Alors pourquoi finalement l'apôtre Paul fait quand même une aparté pour énumérer, exhorter particulièrement les femmes âgées sur un certain nombre de qualités qu'elles seraient bien d'avoir parce que ça édifie l'Église de Jésus-Christ. Je lis déjà en pratique ce qui est écrit pour elles au verset 3. Qu'il en soit de même des femmes âgées, qu'elles aient un comportement digne de Dieu, qu'elles ne soient pas médisantes, ni adonnées à la boisson, qu'elles s'attachent plutôt à enseigner le bien, qu'elles conduisent ainsi les jeunes femmes à la sagesse, en leur apprenant à aimer leur mari et leurs enfants, à mener une vie équilibrée et pure, à être des maîtresses de maison, bonnes et actives, à être soumises à leur mari. Donc, je suis parti du postulat que les qualités qui sont attendues de la part des femmes âgées pour édifier une assemblée d'église sont finalement très, très similaires à celles qu'on demande pour les hommes âgés. Mais il y a quand même quelques nuances, et ces nuances tiennent au fait que l'exhortation de l'apôtre Paul a vraiment pour but de s'inscrire de façon très pratique dans notre vie de tous les jours. Et on sait très bien que dans la vie de tous les jours, les hommes et les femmes, notamment dans les assemblées d'église, et en particulier aussi à cette époque-là, n'avaient pas exactement les mêmes rôles. Ils n'étaient pas interchangeables dans toutes les rôles qu'ils pouvaient occuper. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul prend la peine, mais finalement, de transposer ce qu'il vient déjà de dire pour les hommes pour mieux s'adapter à ce qui peut être compris et attendu de la part des femmes âgées. Et encore une fois, l'idée n'est pas d'avoir des instructions fondamentalement différentes pour les femmes, mais plutôt que les femmes puissent se reconnaître tout de suite dans les exemples qui sont pris par l'apôtre Paul et que ça a un impact direct, visible dans leur vie. Les femmes âgées sont notamment appelées à rendre un témoignage particulier par leur manière d'être. Je rappelle qu'il est écrit qu'elles aient un comportement digne de Dieu. Et il me semble qu'on peut simplement reprendre tous les éléments qu'on a déjà évoqués pour les hommes âgés pour finalement développer cette phrase. Parce que qu'est-ce que ce serait d'avoir un comportement digne de Dieu pour les femmes? C'est aussi d'avoir toutes ces qualités dont je viens de vous parler, à la fois sur le plan moral et sur le plan spirituel. Mais il est vrai aussi que les femmes ont certaines particularités. Je pense que vous ne me contredirez pas si je vous dis que les femmes sont quand même plus préoccupées que les hommes de leur image, de leur manière d'être, de l'image qu'elles renvoient. Et c'est vrai aussi que, inversement, l'apparence d'une femme est beaucoup plus observée que ce qu'on pourrait faire pour un homme. C'est quelque chose qui est complètement ancré dans notre façon de fonctionner. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, il m'arrivait très, très souvent de me lever le matin, le dimanche, pour aller à l'église, et j'avais totalement oublié de passer un peigne dans mes cheveux. Voilà, ce n'était pas vraiment ma préoccupation. Quand ma sœur, elle, avait passé un quart d'heure à s'assurer que sa coiffure, il n'y avait rien qui dépassait. C'est quelque chose qui est totalement naturel. Et je pense que c'est aussi par rapport à ça, c'est parce que c'est des choses qui vont parler aux uns aux autres. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul prend la peine d'insister là-dessus. Mais finalement, si vous êtes préoccupé d'une certaine façon, un peu plus que les hommes de votre apparence, soyez préoccupé que cette apparence soit digne de de notre Dieu. Que votre comportement en particulier soit digne de notre Dieu. D'autre part, il était question aussi pour les hommes de sobriété, honnêteté, modération. Vous vous souvenez, on vient d'en parler il n'y a pas longtemps. Et là, on se rend compte que l'apôtre Paul, pour les femmes, il va aller un peu plus dans le détail, même si on l'avait déjà plus ou moins compris pour les hommes, mais il va aller dans le détail et l'illustrer d'une façon beaucoup plus détaillée en disant, dans le fait d'éviter pour les femmes les médisances et de ne pas avoir, de pas faire un usage immodéré des boissons alcoolisées. C'est vrai que, et là encore, j'enfonce des portes ouvertes, le fait qu'on associe des paroles malheureuses des femmes souvent à des médisances, c'est quelque chose qu'on a souvent en tête. Et donc, en fait, si l'apôtre Paul met le doigt dessus, ce n'est pas tant pour accuser, mais c'est plutôt pour mettre le doigt sur ce qui va plutôt générer une prise de conscience, de se dire, finalement, sur quoi est-ce que je dois travailler dans mon caractère, dans ma façon d'être, pour être conforme à ce que veut la parole de Dieu. Ce n'est pas du tout de dire les femmes ont tendance à être médisantes, mais pas les hommes, mais plutôt de dire finalement, en prononçant ce mot-là, ça va générer quelque chose dans notre esprit, ça va nous parler. De même pour la sobriété dont on a parlé pour les hommes, qui est ici dite de façon plus précise en demandant d'éviter un usage immodéré des boissons alcoolisées. Je voudrais dire aussi, mais ça finalement c'est physiologique, que les hommes et les femmes ne sont pas égaux devant l'alcool et que d'une manière générale, la même quantité d'alcool va avoir un effet beaucoup plus important sur une femme de taille moyenne que sur un homme. Ça c'est quelque chose qui est complètement physiologique, on ne peut rien y changer. Et aussi, et ça c'est relativement connu, les hommes qui s'adonnent à la boisson, en général, ils le font plutôt de façon visible, voire même en se vantant du nombre de verres ou de bouteilles qu'ils ont pu prendre. Ça n'est pas que ce soit une bonne chose, mais malheureusement, en général, quand vous avez des femmes qui sont adonnées à la boisson, ça va plutôt se faire de façon assez secrète. Personne ne va s'en rendre compte jusqu'à ce que la situation soit déjà très, très grave. Donc finalement, ça a un intérêt aussi de mentionner cette possible addiction à l'alcool pour les femmes, parce que ça peut avoir un impact assez grave aussi sur leur vie. Et finalement, il y a quelque chose qui n'avait pas été mentionné de façon explicite pour les hommes, mais qui apparaît dans l'exhortation qui est faite aux femmes âgées. Il est précisé que les femmes âgées ont le devoir d'enseigner et de servir de guide aux femmes plus jeunes. Alors pourquoi est-ce que l'apôtre Paul, un peu de façon étonnante, mentionne cette capacité à enseigner pour les femmes, ce besoin d'enseigner les femmes plus jeunes? Encore une fois, c'est une question de contexte. On comprend bien que dans la façon dont l'Église est organisée, pour des questions d'organisation et pour des questions d'ordre, on n'aura typiquement pas une femme à la chaire qui va faire la prédication. Mais en revanche, l'apôtre Paul tient à mentionner le fait que le fait d'enseigner n'est pas défendu pour une femme, notamment si elle s'adresse à d'autres femmes plus jeunes, et même voir même c'est que c'est quelque chose qui est recommandé. Parce qu'évidemment, une femme va parler à une autre femme d'une façon beaucoup plus personnelle et beaucoup plus profonde. Donc finalement, c'est quelque chose qui est susceptible d'édifier encore mieux l'assemblée. Alors l'idée dans cette prédication n'est pas de rentrer en détail dans les questions d'organisation et d'ordre, notamment concernant l'enseignement, mais je reste sur cette idée que finalement l'apôtre Paul veut vraiment mettre le doigt sur tous les aspects qui permettent à la fois aux hommes et aux femmes, mais d'avoir un vrai, et je parle des femmes âgées, d'avoir un impact réel et important dans la vie de la communauté chrétienne. Ce qui n'est pas toujours intuitif, comme on l'a vu au début, parlant des personnes âgées, on va plutôt avoir tendance à les voir en retrait de la société, ici, le rôle qu'on leur donne est vraiment prépondérant. C'est d'eux qu'on va parler en premier et c'est eux qu'on va considérer comme étant des leaders, notamment sur le plan de comportement à la fois moral et spirituel. Et quand je faisais référence à la société française où finalement les vieillards, entre guillemets, ont plutôt une considération qui tend à faiblir, heureusement, c'est pas le cas partout dans le monde. Moi, si je prends le cas de ce qui se passe dans des petits villages en Afrique, par exemple, comme celui d'où je viens, finalement, c'est les personnes les plus âgées dans le village qui vont être responsables de prendre les décisions les plus importantes en se basant sur le fait qu'elles ont une expérience et une sagesse qui est acquise justement par toutes leurs années de vie, par tous les combats qu'ils ont eu à traverser et par toute l'expérience qu'ils ont pu acquérir. Et je pense qu'on peut faire un parallèle de ça avec la vie chrétienne, où c'est vrai que ne vous méprenez pas non plus. Ce n'est pas parce qu'on devient un homme ou une femme âgée qu'on devient parfait. Ce n'est pas ce qui est dit dans ce texte. Et même le parcours des hommes et des femmes âgées au cours de leur vie n'est jamais un parcours linéaire. Il y a des victoires, il y a des défaites, il y a des bénédictions, il y a des chutes. Parce que personne n'est parfaitement obéissant à Dieu tous les jours, à part Jésus-Christ, bien sûr. Néanmoins, année après année, le temps passé dans la communion avec le Saint-Esprit, le temps passé dans la lecture de la parole, le temps passé dans la recherche de sainteté, tout cela favorise l'acquisition d'un supplément de sagesse, une conviction de plus en plus forte, un attachement de plus en plus constant au Seigneur. Je veux prendre un exemple. Il y a des personnes qui vous parlent de leur vie avec le Seigneur avec l'enthousiasme de la découverte d'un trésor merveilleux, sans aucun équivalent ailleurs. Et à côté de ça, il y a d'autres personnes qui vont vous parler de leur vie avec le Seigneur avec la conviction et l'assurance d'avoir expérimenté maintes et maintes fois l'immensité de l'amour et la compassion de Jésus-Christ. Ce n'est pas exactement la même chose. Là, il y a un côté découverte et à côté de ça, il y a un côté « j'ai expérimenté, je sais, je peux témoigner ». Et c'est ça qui est vraiment formidable et c'est ça qui est vraiment une bénédiction pour nous. Alors ces personnes qui ont cette expérience-là de vie avec Jésus-Christ, elles détiennent un trésor. Elles détiennent un trésor qui n'existe nulle part que dans leur cœur. Elles sont les seules à pouvoir le partager avec d'autres, à pouvoir le transmettre en exprimant tout ce qu'elles ont au fond du cœur, par des paroles, par des actes, par des attitudes, par des sentiments qui sont inspirés de Dieu et qui sont consolidés par le temps et l'expérience. Les personnes les plus âgées peuvent être des puits de sagesse et d'expérience, une sagesse et une expérience qui est transmise aux plus jeunes, qui en ont moins. En tout cas, ça devrait être un objectif de toutes les assemblées d'églises locales. Mais cette transmission, elle ne va pas se faire toute seule. La transmission, ça suppose de créer des relais. Ça suppose de créer des passerelles. Des passerelles, des relais qui permettent aux plus âgés de transmettre ce qu'ils ont et que les jeunes puissent le recevoir. Et évidemment, je vais prendre l'exemple de ce qui s'est passé dans cette église il y a 8 jours, où des femmes de notre église ont eu la très bonne idée, lors d'une rencontre qu'elles ont organisée le samedi 11, d'appeler Théa et de bénéficier du témoignage de Théa et de Bernadette. Et c'est vrai que les échos que j'en ai eus, c'était que c'était des témoignages vraiment forts, touchants, qui étaient basés sur leur vécu. Et cela a vraiment grandement contribué à l'édification des femmes qui ont pu les écouter et qui ont pu poser de nombreuses questions. Ça, c'est un exemple concret de ce que l'apôtre Paul veut nous enseigner au travers de ce passage. Alors maintenant, j'ai une vraie question concernant les personnes âgées dans notre église. une question un peu polémique. Qui est-ce qui peut être considéré comme personne âgée dans cette salle? Dans le passage qu'on a lu, il est juste question de personnes et de femmes âgées. Alors, c'est quoi la limite d'âge pour se sentir concerné? 40? 50? 60? 70? Plus? Moi, je n'ai pas forcément la réponse. Et je pense que la définition de la Bible n'est pas forcément hyper claire sur ce sujet-là. Et finalement, ce n'est peut-être pas là que se trouve l'essentiel. Et en plus, il faut être conscient que l'interprétation peut être très, très différente selon l'endroit où on se trouve. Moi, en Afrique, je vois des vieillards de 50 ans, des gens qui se considèrent comme ayant déjà tout accompli dans leur vie et qui savent qu'ils n'ont pas forcément encore au-delà de ça une expérience de vie qui est très, très importante. Lorsque des personnes du même âge en Europe vont considérer qu'elles commencent à peine la deuxième moitié de leur vie. Donc vous voyez, il y a des considérations aussi de culture et de lieu qui font que finalement, ce n'est pas l'âge qui est le plus important. Mon ressenti personnel que je vous partage, c'est que les notions de vieillesse et d'expérience, de sagesse sont très relatives. Elles peuvent s'appliquer d'une certaine façon à beaucoup de monde. On est tous plus âgés ou plus expérimentés dans un certain domaine que d'autres dans notre entourage. Ce qui veut dire qu'on est tous potentiellement en position d'être des personnes âgées, entre guillemets, par rapport à d'autres. Et vous voyez là où je veux en venir. Ce qui veut dire que finalement, ce qui est dit pour les personnes âgées peut concerner aussi chacun d'entre nous. Ces exigences d'exemplarité et de transmission aussi de ce que l'expérience, de ce que nous avons vécu avec le Seigneur nous apporte, finalement, ça ne concerne pas que les personnes âgées, ça nous concerne tous les uns et les autres d'une certaine manière. Donc je pense que de ce message de ce matin, la leçon à retenir, ça pourrait être que les personnes plus âgées, même si elles sont moins agiles, même si elles sont moins fortes physiquement, elles peuvent être des lampes qui éclairent le reste de la communauté par leur sagesse. Et en général, les lampes, où est-ce qu'on les met? Si je prends l'exemple des voitures, elles sont placées à l'avant pour mieux éclairer le chemin que nous avons à parcourir. À l'avant et non pas en arrière. C'est-à-dire que non seulement les personnes âgées ne sont pas à la traîne de la communauté à nous ralentir comme des fardeaux, mais au contraire, la parole de Dieu les place à maintes reprises comme étant ceux qui orientent, ceux qui éclairent au devant, afin que toute la communauté ne s'égare pas sur le chemin, sur un chemin qui mène à la perdition. Alors, je voulais passer un message particulier à toutes les personnes qui se considèrent elles-mêmes comme âgées dans cette salle. J'ai la joie de vous annoncer que la retraite, ce n'est pas encore pour aujourd'hui, ni pour demain. Et même, je dirais que le seul âge pivot qui est prévu par notre Seigneur, mais c'est simplement le moment où, de sa propre initiative, il nous rappellera à lui dans son royaume. Alors qu'on puisse vraiment rester mobilisé en s'appuyant sur la parole de Dieu, mobilisé dans notre vie de tous les jours, à s'abandonner au Saint-Esprit, à le laisser transformer notre caractère de jour en jour. Parce que c'est pareil, on ne devient pas vieillard du jour au lendemain. En fait, on le devient un peu tous les jours, chaque jour qui passe. Et donc, dès aujourd'hui, jusqu'aux plus jeunes qui sont dans la salle, l'idée, c'est que chaque jour, on soit un peu plus vieux le lendemain, mais un peu plus vieux dans le sens un peu plus sage, un peu plus sobre, un peu plus tempérant, un peu plus de toutes les qualités que nous avons citées. Et c'est ça qui est vraiment l'idée. Mais ça ne nous empêche pas, finalement, de profiter de toute cette sagesse, de toute cette richesse que nous avons déjà au travers des personnes âgées qui sont dans la salle. Et que le Seigneur soit vraiment béni et remercié pour cela. Amen.